Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Et aujourd'hui, je vous emmène à Berlin, dans un monde uchronique, dans lequel la Chine occupe l'Allemagne. On est en 1975 et un meurtrier en série sévit dans les parcs de la ville. Et l'inspecteur Eberhardt est sur sa piste, mais pendant son enquête, il va s'approcher des réseaux de résistance à l'occupant. C'est un one-shot passionnant, moi j'ai dévoré ce week-end. Il est signé par Clark et j'ai le bonheur de l'avoir pour invité. Clark, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est étonnant. Une Allemagne occupée par la Chine dans les années 70, c'est un bon point de départ uchronique. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'idée de base, l'idée de départ?
L'idée de départ, c'est pas très compliqué. Elle est venue en fait du Covid. Le scénario est né à ce moment-là. Donc, il y avait cette histoire de virus chinois, de pangolins, etc. Et à l'époque, bon, évidemment, vous l'avez vécu comme moi, il y avait énormément de commentaires de gens. C'était un milieu, enfin, je trouve que la période était excessivement anxiogène. Et il y avait comme ça ce petit côté, beaucoup, beaucoup de témoignages, très, très, parfois très premier degré, très, très primaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et en fait, pour des gens comme moi, assez curieusement, ce genre de crise, c'est souvent du fuel en fait pour alimenter des histoires et une bonne façon aussi de raconter ce qu'on a vécu en prenant le contrôle en fait, en prenant une certaine distance vis-à-vis de ça. Donc ce que j'ai fait en fait, et à partir de la Chine et d'un virus, je me suis retrouvé à construire cette uchronie. Où j'ai un peu torturé l'histoire d'après-guerre pour en arriver à une Europe envahie par la Chine. Mais le moteur reste le même. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'envahisseur tient l'Europe sous sa coupe avec un virus et un vaccin.
Ouais. Et pourquoi l'Allemagne? Ça aurait pu être un autre pays, la Pologne. Est-ce que c'est l'imaginaire de l'Allemagne de l'Est, occupée par les communistes?
Oui, il y a un peu de ça. En fait, moi, étant belge, de toute façon, je suis plus naturellement familier avec Berlin qu'avec Paris. C'est plus proche de moi. Bruxelles, je pense que personne n'aura envie de l'envahir, donc il n'était pas question que mon histoire se passe là. Mais voilà, donc ça s'est passé naturellement là. Et effectivement, le lien avec l'Allemagne de l'Est et Berlin-Est me permettait en fait de continuer à fonctionner sur une image que tout le monde connaît plus ou moins, enfin à part la propagande chinoise, je veux dire, mais le Berlin austère de l'après-guerre et de la guerre froide est quelque chose qui est déjà entré dans l'imaginaire, quoi.
Ouais, en plus, vous avez choisi le noir et blanc. Il pleut
Oui.
aussi par moment. Donc, c'est vrai que ça donne une ambiance assez particulière avec les bâtiments. C'était pour renforcer ce choix-là?
Le noir et blanc, c'était pas du tout mon choix. En fait, moi j'ai envoyé le projet à l'éditeur. En fait, l'éditrice du bouquin a passé énormément de temps en Chine. En fait, il y a passé 15 ans. Donc, elle connaît la Chine à peu près par cœur et je trouvais très bien sur le bouquin avec elle parce qu'elle m'a beaucoup aidé pour ce qui est de sentir en fait la façon de procéder des Chinois en règle générale. Et c'est elle qui a suggéré le noir et blanc. J'ai un dessin naturellement fait de lumière et d'ombre et de plein et de vide. Mais là, elle m'a dit, écoute, va jusqu'au bout, fonce. Et effectivement, ça a donné un air un peu hard-boiled, en fait, ces espèces de romans policiers à la Chandler, etc., des années 30 aux États-Unis, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on suit un inspecteur, Victor Eberhardt, et son adjoint, en tout cas son collègue. Il est en imperméable et il a un château.
Oui.
Non, mais vous avez joué avec ça, je trouve ça très intéressant. Comment est-ce que vous le voyez, ce Victor? Parce qu'il y a la forme et puis il y a aussi le fond.
Là, en fait, je le voyais. Bizarrement, j'ai pas tellement été chercher dans les romans ou les films d'Hollywood des années 30 ou 40. Moi, si j'avais une référence, ce serait plutôt. Je suis un grand fan de Herbert Lieberman, qui avait écrit Nécropolis. Et l'inspecteur, en fait, a exactement l'apparence que moi, lecteur, je donne à son détective, qui s'appelle Frank Mooney, je pense, dans les romans. Et c'est exactement comme ça que je le vois, moi. Donc, je me suis contenté de dessiner un personnage que j'avais en tête depuis des années en lisant ses romans. Et oui, il est un peu, évidemment, un peu cliché. C'est le bonhomme qui vit seul, qui a une petite tendance à l'embonpoint, qui est en fait d'un abord assez désagréable, sec, et qui ne pense qu'à son boulot. Mais quelque part, c'était une bonne façon de fonctionner parce qu'on a quelqu'un qui, par son métier de policier, quelque part côtoie la politique, donc est un peu plus proche que le citoyen lambda dans la rue, mais il fait le choix de ne pas s'y intéresser en fait. Il y a juste son enquête et c'est tout. Mais il reste quand même en contact avec ces gens-là. Le type dans la rue, même dans le Berlin que je décris, ne connaît rien de tout ça. Je veux dire, lui a des contacts avec eux, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un millefeuille parce que il y a l'enquête, il y a l'occupation chinoise, il y a les réseaux de résistance, il y a le virus en plus. Vous avez mis un certain nombre de contraintes à son enquête et notamment tout le poids de la bureaucratie et des affaires intérieures chinoises.
Oui.
Plus il y a de contraintes, plus c'est intéressant d'essayer de mêler les fils et de les dénouer pour un scénariste.
Bien sûr, bien sûr. Je ne sais plus qui a sorti cette phrase. L'art naît de contraintes et se nourrit de liberté, je crois, un truc de genre. Et en fait, oui, bien sûr, les contraintes sont toujours intéressantes parce que ça demande en fait de trouver les voies détournées. Et quelque part, ça permet un peu de sortir de cette fameuse ligne point A, point B. Très linéaire comme ça, et de chercher, en fait, chercher d'autres choses. Donc oui, c'est intéressant. Et ça rend aussi son enquête plus réaliste. Parce qu'on est quand même, en fait, on est quand même dans un univers tellement, fantaisiste n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas tellement décalé, que j'avais très envie que son enquête soit réaliste. Donc je voulais pas du tout d'un type qui trouve des indices au débotté, qui non, non, je veux un mec normal. Qui en fait, au final, va arriver à résoudre, et je mets des guillemets, cette enquête-là, par des voies tout à fait policières, donc c'est-à-dire des voies de fonctionnaires, en fait. Quelqu'un qui a le temps, qui fouille des centaines de milliers de dossiers, c'est ce que fait la police, en fait. La police, en règle générale, ne fonctionne pas sur des déductions lumineuses. Ils ont juste le temps. Ils ont le temps de courir après quelqu'un.
Ouais, forcément. Le choix de l'époque, 1975. Alors, ça nous ramène à presque 50 ans maintenant dans ce Berlin-là. Pourquoi cette période-là et pas 1955 ou 1985 avant la chute du mur, par exemple?
Parce qu'en fait, je voulais, vu que j'ai un peu tordu le cou à l'histoire d'après-guerre, je voulais qu'en fait, il soit sous le joug chinois, sous la coupe chinoise, depuis 25 ans à peu près. Et donc, ça m'a amené plus ou moins à cette période-là. Ça m'arrangeait très bien parce que je trouve beaucoup plus intéressant de dessiner une voiture des années 70 qu'une voiture aujourd'hui. Ça ramenait aussi un peu à cette espèce de look dont on parlait de l'Allemagne de l'Est qui n'a pas changé des années 50 aux années 80. Donc quelque part, on était un peu là-dedans. Et surtout, ça me permettait d'utiliser Trenchcoat. Ça, j'y tenais beaucoup.
C'est une bonne raison, c'est une bonne raison. Mais je reviens juste sur le personnage de Victor parce que vous avez dit des choses intéressantes. Il est au courant de la politique, il est au courant de pas mal de choses et du poids que fait peser les Chinois sur la société. Il côtoie, enfin en tout cas il est proche parfois des résistants, sans être résistant lui-même du tout. Mais
Exact.
en même temps, il fait des actes de résistance. Est-ce que c'est pas ça aussi la résistance? C'est de temps en temps pouvoir contourner les voies officielles. Est-ce que lui déjà est pas dans une démarche un petit peu d'engagement pour son travail en tant
Si, il
qu'ingénieur?
est, en fait, il est à la limite, c'est quelqu'un qui se protège, mais c'est en fait, c'est exactement le comportement de Monsieur Tout le Monde, en fait. La guerre mondiale qu'on a eue ici en Europe a vu des millions de résistants. Simplement, ils ont tous quelque part résister à leur manière sur des tout petits points de détail et ils ont été nombreux. Et c'est une espèce de petit courage, en fait, mais qui mérite d'être signalé. C'était pas les grands les résistants ne sont pas tous des types qui sont partis dans le maquis. Les résistants sont aussi des gens qui ont juste recueilli quelqu'un chez eux un soir, qui n'ont pas signalé quelque chose qu'ils devaient voir et qu'ils auraient dû signaler. Et ce bonhomme n'est pas autrement, il ne réagit pas autrement que ça. Il a juste cette espèce de trait de caractère qui fait de lui un chien, en fait, qui court après un tueur et qui ne va pas le lâcher. Et ça, c'est sa vie. Et quelque part, ça lui permet aussi, en grosse partie, de se cacher les yeux, en fait, par rapport à tout ce qui est autour. Parce que je pense que c'est quelqu'un, la façon dont moi je le vois, mais je pense que c'est quelqu'un qui se connaît assez bien pour savoir que s'il rentrait dans la résistance, il dégommerait tout. Parce que c'est quelqu'un qui fait tout à fond. Donc, quelque part, pour se protéger, il reste dans la police. Et il se dit, OK, je ne vais pas plus loin que ça, quoi, parce que je souffre trop, je souffrirai trop d'injustice, je souffrirai trop de l'occupant si je commençais à me tracasser de ça. Et c'est le dialogue, d'ailleurs, le rapport qu'il a avec sa fille est assez conflictuel pour ça, d'ailleurs, parce que c'est précisément ce qu'elle lui reproche alors qu'elle le connaît.
Ouais. C'est un one shot,
Oui, oui.
mais il y a le récit de l'Uchronie. Non. Est-ce que ça vous donne envie de revenir un petit peu dans cet univers ou pour vous c'est vraiment un one shot, un album et puis vous retournerez à d'autres choses?
Moi, a priori, c'est un one shot. D'ailleurs, j'ai commencé autre chose depuis. Mais le monde étant ce qu'il était, l'édition étant ce qu'elle est, si cet album se vend, il est clair qu'on en fera un deuxième. Les éditions Delcourt m'ont même demandé, d'ailleurs, à titre préventif, de fournir un deuxième scénario, ce que j'ai fait. Donc, il y a un deuxième scénario qui existe, que personnellement, j'aime beaucoup. Mais voilà, si le livre ne rencontre pas son public, cet album n'existera pas.
En tout cas, le message est passé à vous qui nous écoutez. Puis on espère que nous serons pas dans une réalité parallèle avec un deuxième tome, mais que ce sera dans notre réalité à nous. Merci beaucoup, Clark.
Merci, c'est un plaisir.
Hein, je vous rappelle que donc cet album est paru chez Delcourt, ce nouvelle chine, que c'est passionnant, que c'est de l'Uchronie et que c'est riche de plein de choses. En tout cas, je vous encourage à le lire. Merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle. Et puis, si vous ennuyez, vous pouvez rester toute cette journée avec nous en BD. On a un peu plus de 350 émissions maintenant qui vous attendent dans nos archives. Allez, bonne journée à tous et à toutes.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.